VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Nathalie Barge à la présentation. Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 14 juillet 2022. Voici les titres. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Ils ont fait une déclaration à l'issue de leur rencontre. Les autorités maliennes suspendent toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA. Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Yair Lapid s'engagent à ne jamais permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi ses prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, à Abidjan. Les trois présidents se sont présentés devant les journalistes à la fin de la rencontre pour une brève déclaration lue par M. Gbagbo.
Nouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Le président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel. Je vous remercie.
Voilà.
Et après l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est brièvement exprimé.
Alors, je voudrais ajouter que je disais à mes prédécesseurs que les uns et les autres considèrent que c'est une réunion extraordinaire. Mais l'on doit considérer qu'elle est plutôt ordinaire et qu'elle sera régulière. Et chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leur avis et leurs recommandations. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir régulièrement en fonction de leur disponibilité. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.
C'était le président ivoirien Alassane Ouattara. Les autorités maliennes ont suspendu toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la mission des Nations Unies au Mali. Les détails avec Jean-Roger Biot.
Cette décision s'applique jusqu'à la tenue d'une réunion par la partie malienne dont la date n'a pas été communiquée pour faciliter la coordination et la réglementation de la rotation de ces contingents, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Bamako assure la MINUSMA de travailler de manière diligente en vue de réunir les conditions propices à la levée de cette suspension. Les autorités maliennes justifient leur décision en invoquant le contexte de sécurité nationale. Cette mesure intervient 4 jours après l'interpellation de 49 militaires ivoiriens qualifiés de mercenaires par Bamako. Selon Abidjan, ces soldats étaient déployés au Mali en tant qu'éléments nationaux de soutien, une procédure de l'ONU permettant aux missions de maintien de la paix de faire appel à des prestataires extérieurs pour des appuis logistiques.
Lors du lancement d'un rapport sur l'Afrique ce jeudi, l'ONU a exhorté les gouvernements africains à miser sur les technologies pour diversifier leurs économies et être moins vulnérables aux chocs alimentaires, énergétiques et financiers comme ceux provoqués par la guerre en Ukraine. Une étude analysant le coût économique mondial du conflit indique que l'Afrique subsaharienne est l'une des régions les plus exposées à la crise actuelle, a déclaré Rebecca Greenspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Au Maroc, des pompiers militaires tentent de maîtriser 4 foyers de feu dans des régions boisées du Nord, indiqué Fouad Assali, directeur du Centre de gestion des risques climatiques forestiers. Ces feux de forêt se sont déclarés dans les provinces de Larache, Ouezzane, Tétouan et Taza. Plusieurs douars ont été évacués et 4 bombardiers d'eau de l'armée opèrent près de Ksar et El Kébir. La Tunisienne Ons Jabeur, battue en finale du tournoi de Wimbledon samedi à Londres, a reçu ce jeudi la grande médaille de l'Ordre National du Mérite des mains du président Kais Saied pour ses remarquables succès sportifs. La recevant au palais présidentiel de Carthage, Monsieur Saied l'a remercié pour avoir hissé haut le drapeau du pays dans les événements sportifs internationaux, indique un communiqué officiel.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et Israël ont fait front commun ce jeudi, malgré leurs divergences sur les moyens pour s'assurer que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire. Le point avec Jacques Aristide.
À l'occasion de sa tournée au Moyen-Orient, le président américain Joe Biden a paraphé avec le premier ministre israélien Yair Lapid la déclaration de Jérusalem sur le partenariat stratégique entre les États-Unis et Israël, consacré en partie au dossier nucléaire. Selon ce texte, les États-Unis s'engagent à ne jamais permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire et à utiliser tous les éléments de leur puissance nationale pour s'en assurer. Le président Biden a affirmé privilégier la voie diplomatique face à Téhéran, tout en précisant que les États-Unis n'allaient pas attendre indéfiniment l'Iran pour parvenir à un accord visant à relancer le pacte de 2015, alors que les pourparlers piétinent. Israël s'oppose à ce pacte et souhaite le maintien des sanctions contre l'Iran. Considéré comme la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient, Israël accuse l'Iran de chercher à se doter de la bombe atomique, ce que ce pays dément catégoriquement. Après Israël, le président Biden se rend demain après-midi en Arabie Saoudite, rivale régionale de l'Iran.
En Ukraine, au moins 20 personnes ont été tuées par des frappes russes sur Vinnytsia, dans le centre du pays. Ces frappes ont eu lieu en fin de matinée à plusieurs centaines de kilomètres des lignes de front. Lors d'une conférence à La Haye, le président ukrainien Zelensky a appelé à la création d'un tribunal spécial. L'armée russe a dit avoir visé un bâtiment abritant des nationalistes. Le port stratégique de Mykolaïv au sud, proche de la mer Noire, a été touché tôt ce matin par une frappe de missile. L'Ukraine a de son côté lancé depuis plusieurs semaines une contre-offensive pour reprendre Kherson. Le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a démissionné ce jeudi depuis Singapour, d'où il venait d'arriver. À Colombo, les manifestants ont mis fin à l'occupation de bâtiments publics tout en promettant de continuer à mettre la pression sur le pouvoir. Le chef de l'État sri-lankais a fui samedi sa résidence prise d'assaut par les manifestants. Il a réussi à sortir du pays hier en direction des Maldives, d'où il a pris un avion pour Singapour. En Italie, le président Sergio Mattarella a refusé la démission du premier ministre Mario Draghi, a annoncé la présidence, précisant que le chef de l'État l'a invité à se présenter au Parlement pour une évaluation de la situation. Monsieur Draghi a annoncé en Conseil des ministres qu'il remettrait sa démission ce soir à la suite de la non-participation du mouvement 5 étoiles, un parti de sa coalition, à un vote de confiance au Sénat. En Grande-Bretagne, le ministre des Finances, Rishi Sunak, a de nouveau été placé en tête par les députés conservateurs ce jeudi, lors du deuxième tour du scrutin interne, pour choisir le successeur du Premier ministre, Boris Johnson, devant la favorite des sondages, Penny Mordaunt. Rishi Sunak a recueilli 101 voix devant Penny Mordaunt, 80 voix, et la ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, troisième avec 64 voix. Et aux Philippines, un maire exige des agents en contact avec le public qu'ils sourient sous peine d'amende afin d'améliorer le service des autorités locales. Aristote Aguirre a mis en place la politique du sourire. Après avoir pris ses fonctions à Mulanay dans la province de Quezon, les fonctionnaires devront offrir un sentiment de calme et une atmosphère amicale au public, selon le décret. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans La Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gibourg.
En Afrique de l'Ouest, la campagne cotonnière 2022-2023 s'annonce sous de bons auspices. Du Burkina Faso au Mali, en passant par le Bénin et la Côte d'Ivoire, l'heure est à la revalorisation des prix aux producteurs. En Côte d'Ivoire, le kilo de coton sera acheté auprès des producteurs au tarif de 310 francs CFA, a annoncé le gouvernement hier au terme du Conseil des ministres. Pénurie de carburant, le gouvernement camerounais a dû débourser 317 milliards de francs CFA au premier semestre 2022 pour éviter les hausses de prix à la pompe. Toute augmentation alourdirait l'inflation qui se situe déjà à 4,6% selon le FMI, c'est-à-dire à plus de 3% la norme communément admise dans les pays de la CEMAC. Lors de sa dernière mission dans le pays, l'institution de Bretton Woods avait appelé les autorités à cesser leur soutien des prix à la pompe, tant cette politique est insoutenable à moyen terme. Ici aux États-Unis, une récession reste évitable, notamment au vu de la solidité du marché de l'emploi, a estimé aujourd'hui Christopher Waller, membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, la banque centrale américaine. Il s'est dit ouvert à l'idée d'une forte hausse des taux directeurs d'un point de pourcentage lors de la prochaine réunion fin juillet.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Suite et fin ce jeudi des quarts de finale de la CAN féminine au Maroc.
À suivre le choc Cameroun-Nigeria qui se présente comme une finale avant l'heure. La Tunisie défie l'Afrique du Sud. Hier, le Sénégal a été éliminé par la Zambie. Victorieuse au tir au but, 4 tirs réussis contre 2. Un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. En demi-finale, les Zambiennes affronteront le pays hôte, le Maroc, qui a sorti le Botswana grâce à sa victoire de 1 en quart de finale. À noter que les qualifiés pour les demi-finales représenteront l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde féminine prévue du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Ferdinand Omanyala prendra part aux mondiaux d'athlétisme.
Oui, le sprinter kényan, détenteur du record d'Afrique du 100 mètres, a finalement obtenu ce jeudi son visa pour les États-Unis où s'ouvre demain vendredi ses mondiaux d'athlétisme. Il a prévu de s'envoler ce soir et espère rallier à temps Eugene en Oregon pour être au départ de sa compétition qui débute dès demain soir par les séries. Jusqu'à hier, Ferdinand Omanyala n'avait pas son visa et a même envisagé ce jeudi matin de renoncer à la compétition avant de se raviser. Le troisième meilleur performeur de l'année sur 100 mètres avec ses 9 secondes 85 centièmes est une chance de médaille pour l'Afrique. Retour sur le parcours de celui qui cherche à révolutionner l'athlétisme kényan, connu pour ses performances en demi-fond et en fond, avec Nanit Talani.
En 6 ans d'une fulgurante ascension, il s'est fait un nom au pays où les coureurs de demi-fond et en fond sont rois. Ferdinand Omanyala et son entraîneur Duncan Ayemba veulent changer le regard porté sur l'athlétisme kényan.
Dans un pays où l'on pratique la course de fond, même la fédération n'a pas cru à un moment donné qu'il pouvait y avoir un sprinteur au Kenya. Il faut surmonter toutes ces difficultés pour devenir un sprinteur. Je crois que j'ai ouvert la voie à tant de personnes qui sont venues derrière moi. C'est l'une des choses que je voulais faire, laisser un héritage.
L'athlète de 26 ans porte 2 bracelets au poignet droit. L'un avec l'inscription 9 secondes 85 centièmes, son meilleur temps de la saison réalisé début mai. Sur l'autre, on peut lire 9 secondes 77 centièmes, le record d'Afrique qu'il a établi 8 mois plus tôt, 9e temps de l'histoire. Ces chiffres résument la dernière année du sprinteur kényan qui s'est révélé au plus haut niveau international en attendant de briller sur les 100 mètres lors des Mondiaux 2022, puis aux Jeux du Commonwealth.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Tchad, le chef des militaires au pouvoir, Mahamat Déby, s'en est pris violemment à Bob Menendez, président de la commission sénatoriale des affaires étrangères des États-Unis, pour avoir introduit une résolution au Sénat le 11 juillet en faveur de la démocratie au Tchad. Le sénateur américain a demandé au général Déby et aux autorités de transition tchadiennes de s'engager à organiser des élections cette année, conformément au calendrier approuvé par l'Union africaine, en plus de leur promesse de ne pas se présenter comme candidat. Le point avec André Kodmadjingar, N'Djamena.
Il faut que les gens sachent qu'on est en 2022, le temps où des petits fonctionnaires travaillant dans des ambassades qui viennent donner des leçons ou des orientations aux chefs d'État africains est révolu.
Le général 5 étoiles Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition. Le sénateur américain, lui, s'est dit fier de faire une proposition de résolution critique affirmant le soutien des États-Unis à un dialogue national crédible et inclusif axé sur le retour de l'ordre constitutionnel et au rétablissement de leadership civil. Mahamat Idriss Déby n'a pas mâché ses mots.
Le Tchad est un pays souverain. Ce n'est pas un sénateur qui ne sait même pas placer le Tchad sur une carte et poussé par des lobbies qui va nous orienter ou qui va nous dire quoi faire de notre pays. Et de sur quoi un sénateur qui traîne des casseroles.
Pour les acteurs politiques, le général est allé trop vite en besoin. Et puisque le sénateur américain ne fait que rappeler aux membres du Conseil militaire de transition le respect de leur engagement.
Le rappel de la parole donnée ne mérite pas en retour ni des déconsidérations, ni des verbiages qui font monter les enchères de manière inutile.
L'opposant Dr Succès Masra, pour lui, la souveraineté qu'évoque le président du Conseil militaire de transition est à géométrie variable.
Lorsque le Qatar a demandé au Tchad de différer l'organisation du dialogue sur la date duquel le PCMT s'était pourtant fermement engagé, je n'ai pas entendu qu'on ait rappelé au Qatar que ce n'est pas au Qatar de dicter au Tchad la manière dont le Tchad doit organiser son dialogue. Les partenaires qui viennent travailler dans notre pays, nous n'avons pas besoin de les traiter ni des petits fonctionnaires, ni des gens qui ignorent la réalité du Tchad. Je conseillerais à mon jeune frère de s'entourer davantage de diplomates qui pourraient lui conseiller peut-être un meilleur choix des mots, tout en sachant que oui, le destin du Tchad, c'est entre les mains des Tchadiens. Et des Tchadiens.
Pour le constitutionnaliste Ahmad Mahamad Hassan, la réaction du président du Conseil militaire de transition est un aveu pour la conservation du pouvoir militaire.
La réponse est très passionnée parce que le simple rappel ne peut pas amener à cette colère qui transparaît dans les propos du président Mahamat Idriss Déby Itno. Il aurait dû simplement saluer cette coopération pour la démocratie et la liberté et tout simplement de laisser le porte-parole du Conseil militaire de transition de reconfirmer leur engagement. Le fait de confirmer l'engagement et d'être irrité par le rappel de notre de leur volonté de conservation du pouvoir et c'est dommage.
Peu avant cette polémique, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad avait déjà demandé au Conseil militaire de transition à tenir leur engagement de ne pas se présenter aux prochaines élections. Une déclaration qualifiée par Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS, l'ancien parti au pouvoir d'opportune et qui, selon lui, s'apparente à une ingérence de nature à perturber la dynamique consensuelle et apaisée de la transition en cours. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Bénin, les boulangers pensent devoir utiliser la farine de céréales et de tuberculose locale dans la fabrication du pain. Le conflit russo-ukrainien a entraîné la cherté et la rareté du blé, ce qui incite les professionnels du secteur à explorer de nouvelles voies de production. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Le pain est très prisé au Bénin, même si ces derniers temps, il faut débourser plus pour en acheter. Les boulangers avancent comme argument la rareté, donc la hausse du prix du blé. Face aux récriminations des consommateurs, certains pâtissiers et boulangers proposent la production à base de céréales locales. Gassien Adjagbouni est un acteur politique, mais également un boulanger de renommée qui a fait l'expérience de l'introduction des céréales locales dans la production du pain.
La farine de manioc incorporée jusqu'à concurrence de 5%, aucune incidence, tout se passe bien. Quand on dépasse le cap de 5%, ça demande plus de technicité et plus de savoir-faire. Au niveau de la farine de riz, j'ai été agréablement surpris de voir que jusqu'à hauteur de 50% d'introduction, ça se passait très bien. Sur la problématique de la farine de maïs, jusqu'à concurrence d'introduction de 10% de la farine de maïs dans la production du pain, vous ne pouvez pas le constater. Tout se passait très bien. Donc, il faut même qu'on vous informe.
Malgré ces résultats, certains boulangers ont du mal à se faire à l'idée, car pour eux, il faut un préalable avant d'imposer un tel changement dans l'habitude alimentaire des Béninois. Alain Quenome est boulanger.
Il nous faut la disponibilité de la matière première dans le temps pour que lorsque nous allons commencer progressivement à donner des habitudes aux consommateurs, qu'on puisse maintenir l'offre. Il faut que nous puissions ensemble voir quels sont les actes qu'il faut poser pour encourager ceux qui font bien, sensibiliser et former ceux qui ne font pas bien à se mettre sur le bon chemin. C'est tout. Nous sommes une des rares corporations, nous avons autant de ministères qui agissent là-dedans. Nous sommes quand même une économie à ne pas négliger. Les chiffres relatifs à l'importation de la farine de blé, c'est pas des montants qui se chiffrent en millions, mais en milliards.
Francis Rediblet, boulanger de profession, n'est pas contre l'utilisation des céréales locales, mais pose beaucoup de questions préalables qui sont juste là. Sans réponse.
Ça n'a pas pris peut-être pour plusieurs raisons, c'est une question d'habitude alimentaire. Les premiers éléments que nous avons observés, mais qui va incorporer la farine locale à la farine de blé? Qui? Un. Deux. La farine locale, là, faut la rendre disponible.
Nous disons aussi qu'au-delà, il faut que nous puissions poser certaines questions. Il s'agit de dire qui sont les acteurs, comment ces acteurs sont classifiés dans la configuration du marché aujourd'hui.
Pour la nutritionniste Merveille Adoussiba, les Béninois n'ont pas à se préoccuper des apports nutritionnels du pain à base de céréales locales.
C'est une bonne initiative, les farines locales. D'abord, ce sont nos produits locaux. Quand nous prenons le pain fait à base du blé, vous savez que son glucose, c'est du gluten. Mais quand vous prenez le pain fait à base du manioc, son glucose, c'est de l'amidon. Mais les deux sont tous deux des polysaccharides qui nous apportent de l'énergie, sont des féculents. Si vous respectez la portion qu'il faut là, ce n'est pas encore inconvénient pour la santé.
En dehors de son apport nutritionnel, le pain à base de céréales locales peut être un véritable levier sur le plan économique. Les associations des consommateurs appellent le gouvernement à se pencher sur la question de façon sérieuse. Même si le consensus a du mal à se faire, la cherté du blé finira par forcer la main aux boulangers qui hésitent encore et aux consommateurs qui agitent l'excuse d'apport nutritionnel pour bouder les rares boulangeries qui proposent du pain à base de farine de manioc, de riz ou de patates douces. De Cotonou, Jeanette Fleur dans les Pouvoirs Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu fait face à un manque de sang. Le centre provincial de transfusion sanguine alerte sur l'augmentation des besoins sanguins dans les hôpitaux. Un reportage de notre correspondant sur place, Zanem Neti Zaidi.
Le besoin en sang s'est fait sentir dans presque toutes les grandes structures sanitaires des Goma. Certains patients meurent par manque des poches de sang. Jean-Paul Sankara, un jeune étudiant, témoigne car il a vu un de ses proches perdre un membre de sa famille par manque de sang dans un hôpital dans l'ouest des Goma.
C'est déplorable de voir comment actuellement dans la ville de Goma, il y a carence des poches de sang dans des structures de santé. J'ai vu un ami proche perdre un membre de sa famille à cause du sang. Nous sommes partis à l'hôpital. La structure de santé n'a pas pu sauver la personne vu qu'il n'y avait pas de poches de sang pour la transfusion. Elle a fait recours à la banque du sang. Il n'y a pas eu une réponse favorable de leur part.
Même l'hôpital militaire de Goma connaît une pénurie de sang. Le médecin affirme que le besoin de sang a dépassé le nombre de poches disponibles, ce qui provoque des décès. Lieutenant Ngwai Mafuta Josué, responsable des services des laboratoires à l'hôpital militaire de Goma.
Nous avons constaté que les besoins de sang
s'augmente. On consomme beaucoup l'essence ces derniers temps. Quand on a fait des bilans par rapport à l'année passée et les années antérieures, maintenant là, vraiment, nous constatons que les besoins au sang s'augmentent. L'année passée, on avait consommé environ 70 quelques poches de sang. Et l'année ici, on a déjà dépassé.
Selon Madame Liliane Bouiza, coordonnatrice du Centre provincial des transfusions sanguines du Nord Kivu, les besoins à sang sont énormes, ce qui oblige les centres à faire travailler ses agents pour collecter une quantité plus importante qu'auparavant.
On a constaté que le besoin en sang a fortement augmenté et qu'on n'arrive pas à couvrir correctement le besoin. Ceci fait qu'on enregistre parfois de décès par manque du sang en quantité suffisante. Je dirais même on a presque doublé. L'année passée, nous, par mois, on collectait environ 1500 poches de sang, mais à ce jour, on est en train de faire un effort pour collecter 2900. Je dirais que les moyens ne suivent pas, mais nous sommes obligés de faire cette collecte-là de cette façon au prix des sacrifices des personnels.
Pour pallier à ces fléaux, les initiatives de sensibilisation, de récolte de sang, ainsi que la sensibilisation de la fraternité entre les donneurs de sang ont été multipliées dans la région. Zanem Netizaï Diagoma pour VOA Afrique.
Au cours de sa tournée au Moyen-Orient, le président américain discute principalement de la stabilité régionale, des prix du pétrole et de la relance d'un accord sur le programme nucléaire iranien. Des défenseurs des droits humains appellent M. Biden à aborder aussi les circonstances entourant la mort des journalistes Jamal Khashoggi et Shireen Abu Akleh. Le point avec Cindy Sain de La Voix de l'Amérique, le récit de Jacques Aristide.
Le président Joe Biden a atterri à Tel Aviv hier, première étape d'un périple de 4 jours. Après des rencontres avec des dirigeants israéliens et palestiniens, le chef de l'exécutif américain va mettre le cap sur l'Arabie Saoudite. La sécurité israélienne et régionale est un objectif majeur. Des analystes croient que le voyage du président Biden au Moyen-Orient pourrait conduire à un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mais la présence du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman lors d'une réunion à laquelle doit participer le locataire de la Maison Blanche a provoqué de vives critiques. Pour certaines ONG, il s'agit d'une gifle pour les droits de l'homme. Agnès Calamar est secrétaire générale d'Amnesty International.
Ce faisant, le président Biden est en train de suggérer que les droits de l'homme ne valent pas grand-chose et peuvent être négociés pour une gamme d'objectifs et de résultats. Cela brise à bien des égards la vision que le président Biden a offerte au monde après l'agression de l'Ukraine par la Russie.
La tournée du président américain en Arabie Saoudite est vue comme un recul par rapport à la promesse de Joe Biden de mettre les droits de l'homme au cœur de la politique étrangère américaine et de faire du prince héritier saoudien un paria sur la scène internationale après l'assassinat du chroniqueur du Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018. John Hirsch est le directeur des programmes de Democracy for the Arab World Now, une organisation à but non lucratif fondée par Khashoggi avant sa mort.
Je pense que c'est terriblement décevant pour l'Arabie Saoudite, les défenseurs des droits humains, les dirigeants de la société civile. Et je ne pense pas que ce soit particulièrement judicieux en matière de décision de stratégie et de politique. Je ne pense pas que cela profite aux États-Unis.
Les États-Unis et l'ONU ont trouvé indépendamment des preuves montrant l'implication directe du prince saoudien dans l'assassinat de Khashoggi, des accusations que le prince nie en bloc. Une autre polémique concerne la mort de la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh, tuée lors d'un raid israélien en Cisjordanie le 11 mai dernier. Sa famille a demandé une rencontre avec le président Biden à Jérusalem. Le département d'État a déclaré que les tirs israéliens étaient probablement responsable de sa mort, mais n'a pas pu dire si les tirs étaient intentionnels. Christian Ulrichsen de l'université Rice.
L'administration de Trump et celle de Biden en particulier ont continué de faire pression sur les Saoudiens pour une enquête internationale. Il semble qu'il y a beaucoup moins de pression dans le cas de Shireen Abu Akleh.
Avant l'arrivée de Joe Biden en Israël, la Maison-Blanche a indiqué que la famille de la journaliste avait été invitée aux États-Unis pour s'engager directement avec le président. Des experts qualifient de difficile la première tournée de Joe Biden au Moyen-Orient en tant que président. Quant au groupe de défense des droits humains, ils passent à la loupe chaque poignée de main et chaque mot du président.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagnio. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com.